Christian Page est là. Bonjour.
Salut Bernard.
Content de te retrouver.
Ben moi aussi.
Parle-nous de ce mystère, le mystère de l'aviatrice américaine Amelia Earhart.
Oui, voilà. Donc, on en a déjà parlé en ondes. C'est une aviatrice, une héroïne américaine qui a marqué l'histoire de l'aviation. Et elle est disparue à l'été de 1937, alors qu'elle tentait de faire le tour du monde à bord d'un avion avec un simple navigateur. Bon, évidemment, tout ça nous semble un peu très éloigné de nous, hein, avec tout ce que l'on peut faire dans le domaine de l'aéronautique aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'en 1937, l'idée de faire le tour du monde à bord d'un avion était à peu près impensable. Donc, elle tente ce coup-là et puis voilà qu'elle on est le 2 juillet 1937, elle se trouve à La Haye, en Nouvelle-Guinée. Elle doit rejoindre une île dans le Pacifique, l'île Howland, se ravitailler en carburant et ensuite regagner les îles Hawaï. Et elle aura complété son tour du monde. Et c'est durant cette dernière période que son appareil va disparaître. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On sait qu'il y avait des communications. Il y avait un bateau qui attendait près de l'île Howland. On sait qu'elle a communiqué avec ce bateau. Visiblement, les communications étaient à sens unique. Hein. Elle communiquait de l'information, mais lorsque l'Itasca, donc ce bateau ravitailleur, attendait. Visiblement, on a essayé de communiquer avec elle, mais elle n'entendait pas les communications. Et puis, dans son dernier message, elle dit « Voilà, je suis sur la ligne 137-356 ». Elle donne une coordonnée géographique et puis on n'entendra plus jamais parler d'Amelia Earhart. À l'époque, faut savoir, Bernard, que...
Là, on est en 1937.
On est en 1937, hein? 1937. Et Amelia Earhart était une amie personnelle de du président Roosevelt à l'époque. Donc, il avait enclenché des systèmes de recherche les plus intensifs de l'époque pour retrouver l'héroïne, et ce qui n'a pas été fait. Et là, toutes sortes d'hypothèses qui ont commencé à circuler. Peut-être qu'elle aurait été capturée par les Japonais. Il faut se rappeler qu'on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale et que les Japonais occupaient les îles du Pacifique. Donc, est-ce qu'elle aurait été arrêtée? Est-ce qu'elle aurait pris pour une espionne? On a même fait un film quelques années plus tard où on reprenait ces grandes thématiques de l'espionnage. Mais l'hypothèse qui s'est imposée avec le temps, c'est qu'Amelia Earhart aurait peut-être tenté, à faute de carburant, elle aurait peut-être tenté un amerrissage près d'un petit atoll inhabité qu'on appelle l'île de Nikumaroro. Et dans les années 40, on avait trouvé c'était une île inhabitée. On avait quand même trouvé en 1940, lors d'une tentative de coloniser l'île, on avait trouvé des ossements qui semblent peut-être être des os d'un Européen. Est-ce qu'il s'agissait des os d'Amelia Earhart? Est-ce qu'il s'agissait des os de son navigateur Fred Noonan qui l'accompagnait à l'époque? On n'a pas pu déterminer ça de manière explicite. Mais on a trouvé quand même au fil du temps des archéologues spécialisés dans la recherche des anciens avions disparus, comme celui d'Amelia Earhart, ont quand même trouvé des débris sur l'île. Et en 1991, ils avaient trouvé notamment une grande pièce de métal en aluminium. Au niveau des rivets, quand on regardait la ligne, la signature des rivets, ça ne semblait pas correspondre à un avion de type Lockheed Electra comme celui qu'utilisait Amelia Earhart. Oui. Mais la pièce a quand même été conservée et mise sous clé. Et là, voilà qu'on apprend qu'en 1937, peu avant son départ de la Floride, Amelia Earhart avait procédé à une réparation sur une aile de son appareil. Elle avait utilisé une pièce d'aluminium avec un rivetage particulier qui pourrait correspondre à la pièce d'aluminium qu'on possède. Alors là, il y a eu une entente qui a été faite entre les propriétaires de la dite pièce d'aluminium, ce groupe d'archéologues de l'aviation d'autrefois, et le laboratoire du Centre des sciences de radiologie et en ingénierie de l'Université de Pennsylvanie. On est persuadé qu'en bombardant de neutrons cette pièce de métal qu'on possède, on pourra tirer une espèce d'empreinte digitale, parce que même si le métal, l'aluminium, c'est de l'aluminium, il y a quand même des caractéristiques dans chaque lot, dans chaque mouture, si je puis dire, de l'aluminium. Et on espère qu'en bombardant cette pièce de métal, on va pouvoir en tirer une espèce d'empreinte digitale. Et en la comparant, cette empreinte-là, à d'autres pièces d'aluminium venant du même lot qui auraient servi à la réparation sur l'avion d'Amelia Earhart, mais qui auraient servi sur d'autres avions, etc., on pourra à ce moment-là comparer les deux empreintes digitales de ces pièces d'aluminium. Et s'il y a un match, tu comprendras qu'on va avoir enfin une preuve matérielle que l'avion d'Amelia Earhart s'est bel et bien écrasé dans les eaux qui entourent le petit atoll de Nikumaroro dans le Pacifique Sud.
On va savoir quand?
Ben là, tu vois, d'ici la fin du mois, la pièce de métal sera remise aux experts. Le spécialiste est dénommé Daniel Beck et il le prédit pour la mi-mai à peu près des résultats. Alors, on va savoir si oui ou non il s'agissait d'une pièce de l'avion d'Amelia Earhart.
On le souhaite. En même temps, si elle s'est écrasée à plusieurs kilomètres de l'île, c'est les chances qu'on retrouve un jour la carcasse de l'avion au fond de la mer m'apparaît assez minuscule.
Ouais,
mais bon,
tu sais,
si on pouvait élucider ce mystère, ça serait bien. Oui.
Soulignons, Bernard, qu'en 2019, à l'été de 2019, le célèbre Robert Ballard, qui travaille pour la Woodall Oceanographic Institution, celui-là même qui a trouvé l'épave du Titanic,
oui,
et du Bismarck,
oui, oui, oui,
il a participé à une opération de recherche avec les gens, ce petit groupe, le Tiger. Il a participé à une recherche avec eux autour des îles, de l'île de Nikumaru. Donc, s'il y avait bien un homme capable de retrouver l'épave de l'avion d'Amelia Earhart, avec tous les équipements et tous la technologie high-tech que l'on connaît, c'était bien ce Robert Ballard.
D'accord.
Et ils n'ont rien trouvé. Ballard reste persuadé que l'aluminium de l'appareil, s'il est tombé dans l'eau, c'est probablement désagrégé, mais les grosses pièces métalliques comme le train d'atterrissage ou le moteur doivent bien être quelque part.
D'accord.
Ils n'ont rien trouvé, ce qui n'exclut pas quand même que l'avion aurait pu s'écraser là, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a rien trouvé.
Bon, très bien. Parlons de cet OVNI.
Ah ouais, ça c'est une histoire d'OVNI.
Dimanche passé,
ça c'est une histoire d'OVNI que tu vas aimer parce que on en a déjà parlé des histoires semblables et je sais que tu es particulièrement féru de ces histoires-là. Donc on est dimanche dernier, c'est le vol 2292 d'American Airlines. Il fait une liaison entre Cincinnati et en Ohio avec Phoenix en Arizona et il est 13h19. Sur sa trajectoire, l'avion on parle ici d'un Airbus A320. L'avion donc se trouve dans la partie nord-ouest de l'État du Nouveau-Mexique. Et voilà que le pilote communique à la tour de contrôle d'Albuquerque. Voilà ce qu'il avait à dire.
Have any targets up here? We just had something go right over the top of us that, I hate to say, this looked like a long cylindrical object. It almost looked like a cruise missile type of thing moving really fast that went right over the top of us.
Oh, un missile cruise, forme cylindrique au-dessus de nous.
Voilà, donc c'est ce qu'il raconte. Il dit, voilà, est-ce que vous avez une cible dans notre secteur? Parce que nous, on voit un objet allongé, un peu comme un cigare. Il dit, peut-être même comme un missile cruise. Il est au-dessus de nous et il se déplace très, très rapidement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le Airbus 320 se trouve à 37 000 pieds d'altitude.
Ouais.
Donc ici, s'il s'agissait d'un drone, tu comprends qu'on parle obligatoirement d'un drone militaire parce que les drones utilisés dans le civil ne grimpent pas jusqu'à 37 000 pieds d'altitude. Et à ce moment-là, donc, la tour de contrôle d'Albuquerque n'avait absolument rien sur leurs écrans radar. Elle n'avait que le Airbus 320. Alors, évidemment, il y a eu, comme il n'y a pas eu une quasi-collision, il n'y a pas eu non plus de rapport explicite qui a été fait autour de l'incident. Mais on a quand même vérifié quelques éléments. On a contacté, par exemple, dans le secteur où l'incident s'est produit, on a deux bases militaires qui procèdent parfois à des tirs de missiles, soit la base Dolan, qui est une base de l'Air Force, et également la base de White Sands, qui utilise aussi parfois des missiles. Dans les deux cas, les bases militaires ont confirmé qu'elles n'avaient pas procédé à des tirs de missiles ce jour-là, et encore moins dans le secteur où se trouvait le Airbus 320,
bon,
parce que tu comprendras que c'est un corridor qui est utilisé par l'aviation civile.
Ben oui.
Donc, de son côté, American Airlines a confirmé que la communication était tout à fait authentique, donc ce qui a été rendu public, oui, c'est une véritable communication de l'équipage.
Qui l'a rendu public, d'ailleurs?
C'était quand même surprenant. C'est un type qui écoutait de manière, disons, presque clandestine les communications radio avec la tour de contrôle d'Albuquerque.
Je savais même pas qu'on pouvait capter ça, moi. C'est
oui, donc, il était sur la longueur d'onde et il a capté cette communication et rapidement, il a mis ça sur le web. Ça a beaucoup circulé. Au départ, des gens ont dit ça doit être faux, c'est un trucage. Mais non, l'American Airlines a confirmé que c'était bel et bien une communication. Et non seulement ils ont confirmé que c'était une communication, mais les appels, les demandes pour avoir davantage d'informations, ont été détournés vers le FBI parce que American Airlines a dit en avoir informé les autorités fédérales locales.
Hé, hey, que de mystère, mon cher Christian.
Oh, que de mystère.
Alors, évidemment, tu vas suivre cette histoire.
Absolument.
Et si jamais c'était effectivement des visiteurs
d'outre-espace,
tu nous en informes.
Absolument.
Tu viens dans l'émission Illico pour nous le dire.
Oui,
merci, mon cher.
Salut.
À demain, tout le monde.